Chrono logique.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Fursi, le célèbre esclave réunionnais qui s'est battu pendant plusieurs décennies au XIXe siècle pour faire reconnaître sa liberté. Nous sommes en 1817 à Saint-Denis, sur l'île de la Réunion, appelée à ce moment-là l'île Bourbon. L'île accueille son nouveau procureur général venu tout droit de la métropole, Louis Gilbert Boucher. Celui-ci, âgé de 35 ans, s'est formé aux idées progressistes de la Révolution et son arrivée n'est pas vue d'un bon œil par les puissantes familles de planteurs. De fait, pour faire tourner l'économie réunionnaise, qui se base essentiellement sur la culture du café et de la canne à sucre, les fermiers utilisent une main-d'œuvre gratuite, les esclaves. Sur les 90 000 habitants de l'île, plus de 700 000 sont des esclaves. 90 700 000, on est bon. Non, je sais. Pas du tout, 90 000, 70 000. Je me disais, il y avait un problème dans les comptes. Alors, j'ai rajouté un zéro sur ma feuille. Bon, bref, soit il y avait 8 personnes sur 10. Ça, on est bon. Donc, pour éviter que les rapports de force s'inversent, ces grands propriétaires sont prêts à tout pour conserver leurs intérêts, jusqu'à ignorer les lois. Par exemple, la première abolition de l'esclavage de 1794 à 1802, elle n'a jamais été respectée là-bas, tout comme le code noir qui fut complètement ignoré. Parce que sans grande surprise, la corruption règne, et cela même dans les postes les plus élevés. Donc voilà un peu le climat tendu dans lequel se trouve le nouveau procureur progressiste Gilbert Boucher. Mais un jour, parmi la pile de dossiers qu'il doit traiter, une affaire retient particulièrement son attention. « Je suis né libre et retenu à titre d'esclave. Je réclame ma liberté, voici mes papiers. » Ces mots sont écrits par notre personnage du jour, Fursi. Fursi a une trentaine d'années. Il est retenu par un gros planteur du coin, un certain Laurie. Mais pour l'esclave, son maître le retient illégalement. En effet, suite au décès de sa mère Madeleine en 1817, Fursi a découvert de nombreux documents cachés, dont l'acte d'affranchissement de sa mère. Il comprend alors qu'il aurait dû être libre dès sa naissance. Pour revenir aux racines familiales et comprendre le contexte, Madeleine a eu 3 enfants de père inconnu. Cependant, sa fille, Constance, est affranchie dès la naissance, car son père serait vraisemblablement son maître. Constance recevra une éducation, saura lire et écrire, et aidera son frère Fursi à faire valoir ses droits. Sans elle, rien n'aurait été possible. Alors, suite à ces découvertes et pendant 3 ans, Constance et Fursi vont construire un solide dossier avec suffisamment de preuves pour qu'il soit affranchi lui aussi. En menant l'enquête, ils se rendent compte que l'histoire est assez tordue. En fait, leur mère a été affranchie secrètement en 1789. Elle était libre depuis 19 ans sans le savoir. Et c'est toute cette histoire que la fratrie rédige dans une lettre à destination du nouveau procureur de Lille. Gilbert Boucher, le procureur, est interloqué par ce récit. Il veut en savoir plus. Alors, il convoque le plaignant qui sera représenté par sa sœur, Constance. Car j'ai oublié de le préciser, mais en tant qu'esclave, Fursi ne peut pas se faire pourvoir en justice. Leur argumentaire est solide et il se base sur 2 failles dans la loi. Tout d'abord, les textes de loi sur l'esclavage ne se réfèrent qu'aux personnes à la peau noire et citent uniquement l'Afrique comme pays d'origine. Or, Madeleine, la mère de Fursi, est née en Inde et ne pouvait donc pas être asservie. Son fils, déclaré sans père, est donc lui aussi indien, rendant impossible tout asservissement de sa personne. Le deuxième argument repose sur le privilège de la terre de France, qui existe depuis la fin du XVIe siècle et qui affirme que nul n'est esclave en France métropolitaine. En conséquence, si un esclave foule le sol métropolitain, il se trouve affranchi. Et là encore, c'est la vie de Madeleine qui est invoquée. Vers ses 11 ans, en 1772, elle est venue en France depuis l'Inde avec sa maîtresse catholique. C'est d'ailleurs à ce moment-là, étant hébergée chez une certaine Madame Routier, que la religieuse se sépare de la jeune enfant. En effet, leur hôte, Madame Routier, est enceinte et a besoin d'aide pour son voyage de retour sur l'île Bourbon. Le cœur généreux, la religieuse lui confie Madeleine à une condition. Elle n'est pas une esclave et doit être affranchie dès son arrivée sur l'île. La promesse ne sera pas tenue par cette dernière, comme vous avez pu le deviner. Madeleine aurait dû être libre, et cela, depuis avoir été en métropole. Donc, s'il est né d'une femme libre, Fursi aurait dû l'être aussi. Le procureur n'en revient pas. Le frère et la sœur ont tout préparé et entrevoient déjà un plaidoirier. Dès lors, il soutient la requête. et la requête de liberté de sursis doit être remise par huissier à Joseph Lory, son maître, le 22 novembre suivant. Au matin du jour tant attendu et confiant de son destin, Fursy quitte la plantation et se rend chez Virginie Bega, une femme noire libre avec qui il a eu 2 enfants. Le maître, Lory, lui, ne s'y attendait pas. En lisant l'injonction qui mentionne que Fursy n'est plus son esclave et qu'il doit jouir de tous ses droits, Lory devient furieux. Pour lui, il n'est pas question de laisser un esclave menacer l'ordre établi. Il sait chez qui trouver de l'aide pour résoudre cette affaire rapidement. Car de l'aide pour un colon, c'est assez facile d'en trouver. Beaucoup de personnes partagent des idées esclavagistes, dont le gouverneur de l'île. Lory fait immédiatement arrêter Fursy pour marronnage, c'est-à-dire délit de fuite. L'esclave est envoyé 2 mois en prison. Pour se débarrasser du procureur, Lory l'invoque pour complicité dans l'évasion de son esclave. Résultat, le salaire de Gilbert Wouchy est bloqué. Quelques jours plus tard, lors de l'audience préliminaire du procès le 26 novembre, les colons nient tout et insistent notamment sur les risques pour l'ordre public si tous les esclaves indiens prenaient exemple de Fursy. Le procureur Gilbert Boucher, étant tout de même responsable de la paix civile sur l'île, est pris entre deux parties et se voit obligé de supprimer l'argument racial. Alors sans surprise, le 17 décembre 1817, lorsque le procès en première instance se tient au tribunal, les débats sont brefs et le verdict tombe rapidement. Fursy est débouté. Sa sœur Constance fait appel, mais cet appel finit sur un nouvel échec en février 1818. Fursy sera même envoyé en prison suite à son procès. Quant à Gilbert Boucher, il se sent menacé et il obtient sa mutation en métropole. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 11 mois après le procès, Lory décide de récupérer son esclave. Il fait extraire Fursy de sa cellule pour l'expédier sur l'île Maurice. L'île anglaise est anglaise depuis 1810. Il l'envoie dans la plantation de sa sœur. Là-bas, il est sûr que l'esclave n'essayera pas de se sauver en jouant avec les lois françaises. Pour autant, Fursy ne désespère pas, même s'il vit un calvaire dans les champs de canne à sucre. En effet, il a une obsession. Il veut faire invalider le jugement de 1818. Et l'unique solution pour cela, c'est d'aller directement à Paris, de l'autre côté de la planète, pour se rendre devant la Cour de cassation, qui est la seule juridiction qui peut invalider un jugement. Et pendant 10 ans, il va chercher à trouver une solution pour retourner devant les tribunaux. Il noue des relations avec des affranchis, il trouve des appuis dans l'église, il dicte des lettres à Gilbert Boucher, avec qui il n'aura jamais perdu de contact. Bref, il met un plan en place. Première étape, afin de faire reconnaître à Paris qu'il est effectivement né libre, il doit s'émanciper de sa condition d'esclave pour pouvoir voyager. Et cela va être plus facile que prévu. En effet, il est arrivé sur l'île sans que son maître Lory ne le déclare, donc il n'a pas de statut officiel ici. En 1828, il demande son affranchissement à l'administration anglaise et l'Angleterre, qui a beaucoup assoupli ses juridictions, le lui accorde assez rapidement. À 41 ans, Fursy est loin de sa famille sur cette terre étrangère. Mais enfin, pour la première fois, Fursy est un homme libre. Ainsi, il peut commencer une deuxième vie et choisir un nom de famille, ce sera le prénom de sa mère. Pendant ces 7 années, Fursy Madeleine va ensuite s'épanouir en tant qu'homme libre. Il reste à l'île Maurice où il a rencontré sa nouvelle femme et avec qui il aura 5 autres enfants. Il va aussi monter son propre commerce de pâtissier-confiseur à Port-Louis, la capitale de l'île. Cependant, triste ironie, il achète 2 esclaves pour faire tourner son entreprise. En effet, malgré ses obsessions, Fursy n'est pas un abolitionniste, car son combat n'est pas politique, mais uniquement personnel. Son entreprise est florissante et il finit même par devenir une célébrité locale. Alors, il est prêt pour la 2e étape de son plan, préparer sa requête en cassation, qu'il ira déposer lui-même à Paris, près de 7 ans après son émancipation. C'est en mars 1835 que Fursy découvre Paris, où Gilbert Boucher vient de nouveau à sa rencontre. Le procès en cassation fait la une des gazettes en France, mais passe inaperçu sur l'île Bourbon. Avec les mêmes arguments qui n'avaient pas convaincu les colons réunionnais, il obtient la révision du jugement. Mais il devra cependant attendre 1843 pour que finalement le verdict tombe. Décidément, la justice française n'est pas forcément réactive. Mais bref, le verdict tombe, Fursy est né en état de liberté. Il avait alors 59 ans. Malheureusement, Gilbert Boucher sera mort en 1841, 2 ans avant l'ultime coup de théâtre de l'affaire. Ces 26 années de combat qui viennent enfin de se terminer. Et finalement, Fursy Madeleine est mort riche et entouré à l'âge de 70 ans, sans jamais être retourné sur son île natale, où il est pourtant une célèbre figure de l'émancipation.